RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, pour tous les amoureux des courses d'un jour, ceux que les monuments font frissonner, ce sont les plus beaux jours de l'année qui pointent le bout de leur nez. Les Flamands l'appellent la semaine sainte, une semaine qui dure en fait presque 15 jours et dont les deux points d'orgue seront situés dimanche prochain avec le Tour des Flandres et celui d'après avec Paris-Roubaix qui est en dehors de la semaine sainte mais qui nous est notre course sainte à nous Français. Des pavés, des monts et des foules enfiévrées pour applaudir les derniers forçats de la route aujourd'hui dans Grand Plateau. On vous dit tout de cette période si particulière et si chère au cœur des amoureux de cyclisme. Quelle est la plus belle des deux finalement? Quelle est celle qui suscite le plus de passion? Quelles sont les grandes différences et surtout à qui se destineront cette année le Round 2 et l'Enfer du Nord? Beaucoup de questions passionnantes auxquelles vont tenter de répondre nos passionnés à nous. J'ai nommé Cyril Guimard, Arnaud Souk et Johan Bredov. Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Salut les amis, ça va tout le monde? Très bien.
C'est bien cette semaine sainte d'avoir des saints comme Cyril Guimard. Ça va mon Cyril?
Eh oui, c'est bien d'avoir effectivement des saints.
Ça nous fait du bien. Dimanche prochain et celui d'après, nous allons donc vibrer, trembler, peut-être même pleurer et certainement nous emballer dans le final de ces deux courses, pas comme les autres.
C'est un surdoué, c'est un monstre, c'est même un dieu vivant du vélo. Tadej Pogacar qui se retourne, qui va se passer, la main sur le nez, qui commence à hocher la tête. Il est en train de marquer l'histoire. Tadej Pogacar qui n'en peut plus. 273 km aujourd'hui pour le Slovène. Tadej Pogacar absolument monumental qui va gagner. C'est le doigt au ciel pour Tadej Pogacar qui a écrit à nouveau, encore une fois, aujourd'hui, la légende du vélo. Tadej Pogacar, nouveau Lion des Flandres. Vous entendez cette cloche qu'on entend ici depuis des années, depuis des dizaines d'années sur ce vélodrome André Pétrieux, les 500 derniers mètres pour Mathieu Van Der Poel qui baisse la tête. Mathieu Van Der Poel qui va avoir dans sa roue Wout Van Aert. Il peut se retourner parce qu'il a un tour de retard. Il a 500 mètres de retard Wout Van Aert et même Jasper Philipsen qui lève la main pour lui dire bravo mon gars. Mathieu Van Der Poel qui va remporter Paris-Roubaix, qui va devenir le 8e néerlandais de l'histoire à remporter Paris-Roubaix, la main sur le visage. Vraiment la plus belle victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Monumental Mathieu, 4e monument pour le néerlandais.
Voilà, alors jusqu'à dimanche prochain et celui d'après, même Arnaud, tu vas me faire le plaisir de ménager ta voix parce qu'on va en avoir besoin quand même sur RMC durant les semaines qui viennent.
Hein. Ah, il y a eu Grand Wevel Game hier aussi.
C'était quand même un sacré sprint
entre Pelle Hersen et Mathieu Van Der Poel. On s'est quand même régalé. Hein.
Évidemment. Cyril, on le sait, nous en France, on vibre plus pour les cols du Tour de France que pour les courses d'un jour. Mais ces deux courses-là, elles tiennent quand même une place particulière dans le cœur des amoureux de cyclisme en France, hein. Notamment Paris-Roubaix qui est notre monument à nous. C'est une course que tout le monde connaît, même ceux que les choses de la bicyclette finalement ne passionnent pas. Paris-Roubaix, ça fait partie de la culture française quelque part.
La particularité de Paris-Roubaix et du Tour de France, c'est que beaucoup de gens qui ne se passionnent pas, qui ne suivent pas au jour le jour l'ensemble des compétitions du calendrier annuel, connaissent Paris-Roubaix, connaissent le Tour de France. Et je pense qu'ils doivent connaître aussi par obligation le Tour des Flandres. Alors c'est vrai que qu'est-ce qui enflamme le plus les Français? On a bien sûr les grandes étapes de montagne, mais c'est moins... comment dirais-je? C'est moins fort que les instants de Paris-Roubaix sur une course d'un jour. À mon avis, les pics d'émotion sont beaucoup plus forts sur l'ensemble de la course que sur une étape de montagne du Tour de France.
Ah ouais,
qui, quelque part, est plus longue. Elle laisse effectivement. Mais le problème, c'est que la veille, il y a aussi une étape où il y avait de la montagne. Et le lendemain aussi. Alors que là, au moment où les coureurs franchissent, rentrent sur le vélodrome, la course va s'arrêter. Alors que le Tour de France continue.
Donc ouais, je pense que quand t'as un Thibaut Pinot qui attaque, ouais, ou un Julien Alaphilippe qui se met dans sa roue, les deux hommes qui font la course en tête, je pense que là le pays entier vibre et pas seulement les amoureux de vélo.
On a des moments effectivement aussi très forts, mais ça n'est pas la même intensité.
C'est plus stéréotypé, moi je dirais, Cyril, le Tour de France,
tout à fait.
Les grands tours.
Tout à fait. On est.
Moi j'ai été fasciné par exemple de
Thibaut Pinot, c'est deux fois dans sa carrière. Et sur des temps relativement courts.
Regarde, sans parler des Français.
Regarde hier.
Pogacar et Vingegaard se mettent des peignées.
Oui, mais ils se mettent des peignées. Alors, ok, il y a l'étape de Cotteret. Il y a l'étape de Cotteret, d'accord, qui fait peut-être exception. Mais regarde hier sur Grand Wevel game à 150. Oui, mais ça arrive, on l'a dit, on l'a suffisamment dit, ça arrive une fois tous les 40 ans.
Oui,
hier, sur Gant Wevel Game, à 150.
On vibre pas tous les ans non plus sur
Bordure
Paris-Roubaix,
à 150 km de l'arrivée. Or, on vibre pas tous les ans sur Paris-Roubaix. Si.
Non, mais ça dépend.
Je suis pas d'accord là, Grisha.
Si on regarde en fait, si on regarde par le prisme français, forcément, on va plus vibrer au Tour de France. Ça fait très longtemps qu'un Français n'a pas disputé la gagne sur Paris-Roubaix ou sur le Tour des Flandres. Donc, forcément, quand Christophe disait qu'il y a un Thibaut Pinot à Julien Alaphilippe, bah oui, parce que c'est un Français qui peut gagner. Donc, forcément, c'est là qu'il y a tout un soulèvement populaire sur le Tour de France. Moi, je suis plutôt d'avis avec Christophe là.
Ouais. Voilà. Ben moi je suis d'avis avec Cyril. Voilà.
Non, bah, pour une fois.
Non mais là les alliances, ça dure depuis deux semaines.
Les alliances se renversent. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le Tour des Flandres, lui a un peu moins la cote chez nous. On lui préfère évidemment l'enfer du Nord. Le Ronde, c'est une autre sorte d'enfer, Arnaud. Hein. Oui. Un enfer qui fait frémir toute la Belgique. Le dimanche du Ronde, bah, c'est une journée pas comme les autres pour le plat pays et surtout pour sa province des Flandres.
Oui, c'est le dimanche saint, voilà, comme on le surnomme là-bas, sur le lendemain de vendredi saint, veille de lundi de Pâques. Le Tour des Flandres, c'est une gigantesque kermesse à ciel ouvert, absolument unique hein, dans le monde du vélo et peut-être même dans le monde du sport. Le week-end est souvent chargé d'excès en tout genre, bière d'abbaye, frites, fricadelles baignées dans l'huile. Les plus courageux participent à la cyclo du Ronde 2 avec pas mal de casse mécanique, mais toujours beaucoup de fierté une fois franchi la ligne d'arrivée. Bref, le journaliste flamand Hugo Courvitz, qui habite au pied du vieux Coirmont, le mythique vieux Coirmont, et couvre le cyclisme pour le Het Nieuwsblad depuis plus de 30 ans, nous donne le là de ce week-end si particulier.
C'est dans l'ADN des Flamands. C'est un peu le même que avec le Tour de France, les Français, chez nous. Le Tour de Flandre, c'est une journée sacrée. C'est comme Noël, c'est comme Pâques, c'est comme tous les grands jours de l'année. Et ça parle à la boulangerie. Au boucherie, ça parle partout qui va gagner. Est-ce que Van Aert peut gagner? Est-ce que Flahut peut gagner? Est-ce qu'un Belge peut gagner? C'est hot en Belgique, oui.
Voilà, c'est hot, c'est chaud en Belgique où le million de spectateurs devrait encore être atteint tout au long des 270 km de course entre Anvers et Audenarde. Dimanche, 16 monts pavés au programme, dont le vieux Coirmont et son petit frère diabolique, le Paterberg, avec ses passages à près de 20%. Mais business is business, comptez quand même plusieurs centaines d'euros pour espérer être placé aux premières loges dans ces passages aussi décisifs qu'emblématiques de la course. La folie est totale, elle se laisse encore plus savourer depuis le Covid et l'édition 2020 où les supporters belges avaient été priés de rester chez eux, personne au bord de la route cette année-là et notamment dans le vieux Coirmont. Oliver Nyssen, coureur professionnel flamand, 7e cette année-là, s'en souvient avec un certain cafard.
Quand il y a une foule, c'est vraiment la folie. Surtout quand tu pèses sur la course et tu joues les premiers rôles, c'est vraiment dingue. Cette année-là, j'ai passé tout seul en 3e sur le vieux Coirmont, une dizaine de kilomètres de la ligne, podium, envisageable, pas une personne. Oh, c'était tellement nul, je voyais seulement le drone qui passait au-dessus de ma tête. C'était stérile et vraiment nul. C'était même mieux. L'année passée, j'avais la grippe juste avant le Tour des Flandres, donc j'étais pas top. Et je pense que j'ai passé là, genre top 15, top 20 la dernière fois. Et même ça, c'était mieux que passer en position de podium sans public. Donc ouais.
Voilà, les coureurs, même si la course est l'une des plus difficiles de la saison, apprécient hein, cet engouement à participer au Tour des Flandres. Et comme pour Paris-Roubaix, le rêve hein, de tout Flahut qui se respecte, le gagner permet de rentrer dans la légende du cyclisme. À ce titre-là, cette année, il devrait encore diviser les Flandres du vélo entre Mathieu Van Der Poel, double vainqueur, et Wout Van Aert, qui sans Christophe Laporte malade a tout misé cette année sur cet objectif.
Oui, évidemment, on va en parler de tous ses favoris. Avant cela, Cyril, parlons quand même de ce désamour finalement entre les Français et le Tour des Flandres. Seuls 3 Français l'ont emporté. Dans les années 50, il y a eu 2 années incroyables, Bobet et Forestier. Et puis ensuite, il a fallu attendre quelques années, quelques décennies pour en retrouver un autre. C'était Jacky Durand, 1992. Depuis, il ne s'est rien passé ou presque, même si Chavanel aurait pu l'emporter quand même hein, quelques années.
Madouas ne fut pas très loin non plus.
Madouas ne fut pas très loin, mais enfin Cyril Guimard aussi n'est pas passé loin en 1971, 3e du Tour des Flandres. Même Bernard Hinault qui a tout gagné, eh bien n'a jamais gagné le Tour des Flandres. Je crois qu'il a participé qu'à 2 reprises à cette course. Il l'aimait pas. Alors on sait qu'il aimait pas Paris-Roubaix, mais il a fini par la gagner. Le Tour des Flandres, c'était pas son truc non plus.
Il a surtout fini par le faire.
Oui. Oui, et donc le gagner.
Parce que déjà, pour gagner, il faut prendre le départ. Donc le Tour des Flandres, effectivement, c'était pas sa tasse de thé. Enfin, tout ce qui était pavé ou ce type de course...
C'est ça, c'est les pavés qui ne lui plaisaient pas. Ouais.
Voilà, il trouvait ça dangereux, surtout. Hein. Ça ne lui plaisait pas parce qu'il trouvait ça dangereux.
Surtout parce qu'il avait des qualités cyclistes qui n'étaient pas extraordinaires. Il s'est amélioré au fil des années, ce qui lui a permis effectivement de remporter un Paris-Roubaix. Alors l'année d'avant, il avait déjà terminé quatrième, hein, faut s'en rappeler. Et c'est là qu'il a compris qu'effectivement, les pavés, il les aimait pas, mais qu'au moins, une bonne année, on va se faire une bonne plâtrée de pavés à la sauce caillou. Et ça l'a fait. Bon, après, il a dit basta. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais quand vous parlez de Bobet et Forestier, il faut savoir que Bobet et Forestier ont également gagné Paris-Roubaix. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont gagné année Paris-Roubaix et Gauthier gagnait Gauthier.
Forestier, non
Forestier, oui, nom, le trou de mémoire, alors qu'on vient de le prononcer. Oui, Bobet et Gauthier ont gagné une année Paris-Roubaix et une année le Tour des Flandres, mais deux années à suivre. C'est-à-dire que c'est. On était les rois des pavés. Et oui, après, ça a duré longtemps avant de retrouver un vainqueur.
Parce qu'après, on a réintroduit des vrais pavés, parce que ça se perdait un petit peu quand même les pavés dans les années 50, surtout sur Paris-Roubaix. Bref, on va pas rentrer dans le débat, je vais me faire engueuler par ça.
C'est vrai, mais tu as raison, les pavés avaient été un peu mis de côté, d'ailleurs parce que tout était bitumé, toutes les routes et les chemins.
Et aujourd'hui, on en débitume.
On
cherche. Mais c'est vrai, les organisateurs cherchent surtout auprès des personnes assez âgées, on va dire, de gens qui sont là depuis très longtemps, si elles n'ont pas le souvenir dans leur tendre enfance d'un passage pavé dans le coin. Et parfois,
des vieilles dames
ou des vieux messieurs.
La
Trouée d'Arambert, pour le coup, elle n'avait jamais été bitumée, si je ne dis pas de bêtises. Ça restait un chemin forestier.
Très bien.
Oui, alors il faut savoir que c'est Jean Stablinski qui est allé la chercher.
Oui, parce qu'il était passé en dessous quand il était mineur.
En dessous, oui, c'est pour ça qu'il les avait. Mais je me souviens de petit Louis Capu, qui était donc mon directeur sportif, et qui nous disait déjà dans les années 70, les pavés, les Paris-Roubaix d'il y a 15 ans n'ont rien à voir avec les Paris-Roubaix de maintenant. Avant, on attaquait les pavés à Solesmes, mais il y avait en fait que des beaux pavés et que des routes à peu près carrossables. Et comme c'était une épreuve toute plate, eh bien, elle perdait complètement son intérêt. À la limite, c'était Paris-Tours avec, une dizaine de passages pavés, mais des bons pavés. Et là, les organisateurs ont décidé de faire en sorte que cette course ait une autre physionomie, une autre image. Et c'est là où ils ont commencé à déterrer les chemins forestiers, où beaucoup d'ailleurs avaient des pavés en dessous. Exactement. Et c'est comme ça que le Paris-Roubaix d'aujourd'hui est né.
Exactement, ça n'a pas été linéaire, tout ça, toute cette histoire. On l'a aussi répété, pour les Flamands, le Tour des Flandres, c'est plus important que le Tour de France, et pourtant, ça ne dure qu'une seule journée. Enfin, une seule journée, pas vraiment. Johan, on va voir avec toi, parce que le Ronde vient clôturer cette semaine particulière, qu'on appelle donc la Semaine Sainte, qui coïncide avec les fêtes pascales, avec une multitude de courses qui se déroulent pendant cette période-là, sur un tout petit périmètre, finalement.
Ouais, c'est ça, Bruges-la-Panne, le Grand Prix O3, Gand-Wevelgem, à travers la Flandre, et donc le Tour des Flandres. 5 courses World Tour quand même qui s'enchaînent sur 11 petits jours seulement et sur les pavés flandriens. Une zone bien précise d'ailleurs du sud des Flandres, c'est pas très grand, à peine un petit département français. Voilà, c'est là, tout se concentre au même endroit. Une semaine 5 week car c'est un véritable pèlerinage débutant à Bruges, terminant en apothéose à Audenarde. Alors on tourne autour des mêmes monts, les Bergen, plus ou moins durs, plus ou moins pavés, mais dont beaucoup sont entrés dans la légende, le Tiegenberg, le Lehberg, le Taillenberg encore, et Arnaud en a parlé, le vieux Quarmont et le Paterberg, dont l'enchaînement est terrible. Un spectacle offert aux yeux, des images magnifiques qui restent en mémoire. On a tous en tête la poussière soulevée sur les pavés par les coureurs. Ça, c'est quand le soleil rayonne. Sinon, c'est la boue qui rend encore un peu plus épique des courses qui n'en demandaient pas tant. Ajoutez à ça une communion et une ferveur des supporters belges toujours au plus haut, fiers de mettre en lumière leur région. Une période sacrée donc en Belgique qui se terminera en apothéose ce dimanche de Pâques avec la grand-messe. Le Tour des Flandres, tout simplement.
Exactement. La grand-messe, d'ailleurs, je regardais la météo pour dimanche. Et
ça va.
C'est pas non plus...
Zut.
Moi, je vois nuageux avec un peu de pluie.
Oui,
quand même,
mais ta météo, je pense qu'elle est pas bonne, Christophe. T'as un vieux téléphone, déjà.
Il est très bien, mon téléphone. Il me donne une très bonne météo. On verra.
On verra qui fera
le malin dimanche.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, vous pouvez m'annoncer ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça sera une belle course. Vous pouvez m'annoncer c'est plein soleil, vent, pluie, je sais pas quoi. Bon, voilà.
Mais en fait, de, comme le dit Cyril, plus il fait moche. Et
ah, bah oui, non, mais ça m'étonne pas. C'est, il est impitoyable, celui-ci. Ouais,
il est impitoyable. Tu sais bien, quand il ouvre sa fenêtre. Bah,
je suis le seul, d'ailleurs. Il faut bien qu'il y en ait un.
Le seul qui se réjouit, évidemment. C'est un sadique, ce Cyril Guimard. Une bonne partie.
Oui, alors je voulais vous dire que le Tour des Flandres, cette semaine sainte, en fait, c'est une course à étapes. Qui commence dès le mois de février avec le Het Nieuwsblad, Kuurne, et que en fait la pression monte après chaque course. Chaque course apporte eh bien un nouveau scénario. Des coureurs arrivent, les rivalités se mettent en place, et derrière il y a tout un mouvement qui va aller jusqu'au Tour des Flandres. Donc en fait le Tour des Flandres c'est la dernière course qui va clôturer cette on va dire cette semaine sainte, plus que cette semaine sainte, mais qui va faire que celui qui va gagner, eh bien c'est comme s'il avait gagné le Tour de France. Mmh. Et en Belgique, quand vous gagnez le Tour des Flandres, eh bien vous êtes aussi adulé que si vous gagnez le Tour de France. Exact. Et c'est ça la grosse différence.
Ouais, ouais. Une bonne partie de ces courses a donc déjà eu lieu. Il y a vu plusieurs coureurs différents s'imposer. On a vu Philipsen remporter la Classique Bruges. On a vu Van Der Poel sur le Grand Prix E3. Très impressionnant, c'était vendredi dernier. Et puis enfin, donc, Mats Pedersen sur Gent-Wevelgem qui s'est payé ce dimanche le scalp de VDP. Pedersen qui bat Van Der Poel à la pédale. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Johan? Tout d'abord, ton avis. Est-ce que toi, ça t'a surpris?
Non, ça m'a pas
surpris.
Non, ça m'a pas surpris. Il faisait partie des grands favoris. Il fallait bien quelqu'un y aille. Alors peut-être au début de la course, mais quand même, il faut bien quelqu'un tienne.
Mathieu Van Der Poel. Troisième ou quatrième favori du jour, hein, Pedersen. Hein,
moi, je l'aurais mis un petit peu plus haut quand même, Mats Pedersen. Après, bon, on va en parler, mais il y a son équipe qui a fait un travail remarquable. Et puis, on l'a vu qu'il était extrêmement fort. Mais un mec qui a gagné 40 fois avant cette victoire, qui est champion du monde 2019, qui a gagné sur les trois grands tours. Ah oui, alors c'est une demi-surprise alors.
Bah oui, parce que...
Moi, c'est pas une surprise du tout.
Oui, mais enfin, Van Der Poel était quand même... Non, on avait l'impression qu'il était sur un nuage, là, depuis
ouais.
Même s'il est battu sur Milan-San Remo, mais enfin, il a fait le travail pour son équipier.
Ouais, mais hier...
Vu ce qu'il monte vendredi, quand même, sur le Grand Prix E3...
Non, mais après, il y a un contexte qui est un peu différent hier. Enfin, on va avoir le temps de parler de la course, mais ce qui s'est passé quand même sur Gent-Wevelgem, c'est qu'il s'est retrouvé piégé. Il attaque dans le Kemmelberg. Il se retrouve avec... 3 Lidl sur le palto et il se retrouve à assumer tout seul la chasse de Jonathan Milan. Donc déjà tu et puis bon, il a pas été fébrile, hein. Il a fait le taf qu'il devait faire, hein. Il y est allé, il a fait du Mathieu Van Der Poel sans aucun problème. Il avait Stuyven et Pedersen avec lui, il y est allé. Bah derrière bon, et encore il a eu de la chance, je pense que Stuyven crève dans l'un des passages de chemin de gravier et de poussière parce que sinon s'il y avait eu les deux, bah ça aurait été réglé bien en amont, je pense.
Mmh. Cyril, surpris par la défaite de Mathieu?
Non, les circonstances de course sont très claires, comme Arnaud l'a donné. Il était, à mon avis, un petit peu émoussé, voire pas mal, par son grand raid de la semaine précédente,
deux jours avant,
vendredi. Et oui, mais en termes de récupération, on va dire, sur le plan physiologique, il faut 4 ou 5 jours, normalement, après un tel effort. Quand vous êtes dans un groupe derrière, les efforts sont beaucoup moins importants, d'ailleurs, parce que souvent, vous ne pouvez pas les faire au-dessus. Mais il a laissé beaucoup d'énergie, et l'organisme était de toute façon entamé. Mais comme il n'en a pas tenu compte et qu'il a couru comme si il avait les jambes qu'il avait 48 heures avant, bah, il l'a payé cash dans le sprint. Bon, plus de 3 petites erreurs, mais qui sont aussi des signes d'un manque de sérénité dans le final. Parce qu'il doit mettre une dent de plus et à la limite, il peut passer. Il ne se laisse même pas décrocher pour venir dans l'aspiration, prendre la vitesse dans l'aspiration. Donc, deux petites fautes techniques, pas trop les jambes. Et puis, je pense qu'il partait, à mon avis, battu. N'oublions pas que l'ascension précédente, enfin, les deux ascensions du Kemmel, c'est lui qui avait fait le tempo, mais un vrai tempo, en faisant péter tout dès le premier passage. Et la dernière ascension, et d'ailleurs il le reconnaîtra après la course, la dernière ascension, il était déjà limite. Donc dans la tête, il savait déjà que pour battre Pedersen, il fallait que l'autre fasse des fautes. mais c'est lui qui les a fait. Et puis ça fait du bien de temps en temps.
Ah bah oui,
de...
non, mais on va pas se plaindre. C'est bien qu'il y en ait.
Non, et puis Lidl Trek, qui gagne. Voilà, c'est quand même, on dira ce qu'on veut, mais cette équipe, on s'est suffisamment gargarisé de leur activité sur le dernier Tour de France, que ce soit entre Skelmoseux, entre Giulio Ciccone, même avec Mats Pedersen, Jasper Stuyven, on s'est quand même suffisamment gargarisé pour ne pas être heureux quelque part pour eux, ou en tout cas ne pas être à tout le moins admiratif de voir que, bon, ben voilà, ils sont là. Et à l'inverse, pardon, de Soudal Quickstep hier, bah, ils ont eu tout juste, Lidl Trek. Là où Soudal Quickstep a eu tout faux.
Et c'est pas la première fois.
Alors, rappelez-vous quand même l'histoire. L'histoire est quand même intéressante. C'est que souvent, l'équipe Quickstep passait au travers de Gravel-Veldegem, et le nombre de fois où on a pu voir le Fevers et qui gagnait le Tour des Flandres. Ou
donc Alaphilippe va gagner le Tour des Flandres derrière. Dimanche prochain.
Ça va être compliqué cette année. Hein.
Là, c'est plus compliqué. Là. On reposera l'équation
un peu
plus tard.
C'est ce que tu viens de dire, Cyril.
Non, il disait que sur les années précédentes, c'était avéré comme ça.
Voilà, donc, et je dis que la victoire, la défaite de Van Der Poel, pour moi, est intéressante, va l'obliger à se remettre en cause, vraiment à faire le métier à 1000% jusqu'au Tour des Flandres, de façon même beaucoup plus intense que ce qu'il avait l'habitude de faire. Et les défaites apportent souvent les belles victoires derrière. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous voyez l'équipe de France de foot qui se prend 2-0 par l'Allemagne, je m'appelle Deschamps, je suis content.
Okay.
Eh oui, parce que d'un seul coup, on va dire, attendez les gars, là on va arrêter, il n'y a plus de stars, on va redevenir des footballeurs et on va rejouer au football. Voilà, eh bien pour Van Der Poel, ça peut être la même chose.
Très bien. Mats Pedersen, qui a réalisé en tout cas un début de saison en forme de boulet de canon. Il a décroché ce dimanche son 7e succès de la saison, avec notamment des victoires sur l'étoile de Bessèges et le Tour de la Provence, mais face à une adversité de moindre qualité qu'hier. Là, battre Van Der Poel à la régulière prouve quand même que le garçon a franchi un cap cette saison, Arnaud, non ?
T'es champion du monde en 2019, t'as gagné des étapes sur le Tour de France,
jamais,
on est à la barre de tout le monde.
Il n'a jamais gagné de monument encore.
Oui, c'est vrai.
Même si le championnat
c'est vrai, mais regarde, Philippe Sen n'en avait jamais gagné jusqu'à la semaine dernière. Et je le placerai pas pour autant favori, mais en même temps, moi, ça m'étonne pas que ce garçon soit capable d'être là dans le final d'une course avec ces circonstances-là. Et je pense que si jamais il n'a pas de pépin, il sera aussi plus ou moins dans le final du Tour des Flandres. Il n'y a pas trop de soucis pour Mats Pedersen. C'est un garçon qui est très très fort, et certes il n'avait pas gagné de monument, mais il faut se souvenir à Rogate en 2019, les conditions dans lesquelles il gagne la course, c'était une journée absolument abominable d'un point de vue climatique. Il avait 23 ans, il était ce jour-là. Mathieu Van Der Poel avait connu un coup de fringale et avait complètement éclaté à 20 bornes de l'arrivée, pendant que notre ami Pedersen s'échappait avec Stefan Kung et un troisième dont le nom m'échappe là dans l'absolu, qui avait fait médaille d'argent ce jour-là. Mais bref, on savait qu'il était capable, ce garçon, de faire ça. Donc moi je suis quand même en fait pas du tout étonné, mais en même temps je suis d'accord avec toi, c'est vrai que finalement sur ces grandes classiques là on voit pas tant que ça, enfin en tout cas il a pas un palmarès si étoffé que ça,
même si c'est la deuxième fois qu'il
gagne, il est pas étoffé. Moi je voudrais bien un Français qui l'est, hein.
Bien sûr, t'as raison, évidemment.
Il faut savoir que la première course qu'il a remportée c'était le Grand Prix d'Isberg. Une semaine après, il est champion du monde. Il a quand même terminé, si mes souvenirs sont exacts, la même année, deuxième d'un Tour des Flandres. Trentin. Et ensuite, voilà quelqu'un qui a remporté le maillot vert sur le Tour d'Espagne, qui a des victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, sur le Giro, sur le Tour de France, qui a un palmarès absolument extraordinaire. Il a remporté Kurn-Bruxelles-Kurn. Non, mais regardez le palmarès qu'il a, c'est extraordinaire.
Non, mais bien sûr. C'est un palmarès extraordinaire.
Mais c'est un garçon qu'on met pas dans le même sac
que les monstres. On parle beaucoup
il est
plus
là,
de
le problème.
Van Aert que de Pedersen. On parle beaucoup plus
Christophe, tu as raison, tu le mets dans un deuxième peloton.
Pedersen, tu ne le mets pas dans le peloton.
Il est asphyxié par les monstres, parce qu'on ne parle que de Van Aert et de Van Der Poel. Et de l'autre côté, on va dire Pogacar.
J'aurais réfuté le fait qu'il explose cette saison.
Oui, c'est ça.
C'est ça que j'aurais réfuté.
Non, je dis pas exploser, je disais passer un cap.
Oui, passer un cap.
Franchir un cap. Mais quand tu bats Van Der Poel à la régulière dans une classe classique tel que Grand Vélodrome, ça montre quand même que tu es dans le final de Milan-San Remo, il termine quatrième, je crois, de la
derrière Pogacar, battu au sprint par Tadej Pogacar. Donc moi, je suis un peu comme Arnaud, je pense pas qu'il ait passé de cap. Là, il a profité des circonstances d'une course qui était remarquable. C'est peut-être plus son équipe qui a passé un cap, justement, dans cette tactique-là et de faire gagner n'importe qui, parce que Mats Pedersen a profité de ça. Maintenant, il est très fort.
Mais vous le mettez dans le deuxième peloton.
Voilà, il est dans le deuxième peloton.
Dans le
groupe,
tu vois, par exemple, il est en chasse-patate derrière
je prends ses places l'an passé sur les Flandriennes. Cinquième de Gent-Wevelgem, cinquième du Tour des Flandres, à travers la Flandre, troisième du Tour des Flandres et quatrième de Paris-Roubaix.
Voilà.
Bon, il est là le garçon quand même.
Il est là, mais
ça se trouve, ça sera. Mais oui, non, mais après, voilà, c'est pas Gent-Wevelgem qui lui fait franchir un cap. Pour moi, il est là. Il était déjà là.
C'est pas Gent-Wevelgem qui lui fait franchir
un
cap.
S'il gagne le Tour des Flandres dimanche,
c'est de battre Van der Poel qui lui est un monstre.
Peut-être,
qui lui fait franchir un cap. C'est pour ça que je vous posais cette question. Bref.
Je vais vous donner mon avis. Il est beaucoup trop introverti et il sait pas faire sa com.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas qu'il sait pas la faire, c'est qu'il aime pas la faire. Il envoie balader tous les journalistes qui lui posent des questions. Alors hier, il était un petit peu plus heureux que d'habitude. Mais je peux te dire que je peux te dire. D'ailleurs, c'est le diffuseur du cyclisme, le diffuseur de Paris-Nice télévisé qui avait fait exprès un jour de lancer un son de sur le dernier Paris-Nice, un son de
Pedersen.
De Mats Pedersen qui avait été fait le matin par un des journalistes au départ, où en fait Mats Pedersen vraiment se moquait du journaliste en lui faisant des réponses de 4 mots. Et donc pour l'afficher un petit peu, notre ami Alexandre Pasteur, voilà, exactement, exactement comme Marc Madiot, sauf que Pedersen c'est pas du tout du second degré, au point que à l'arrivée à Sisteron, donc toujours sur Paris-Nice, l'attaché de presse de l'équipe Lidl Trek a dit à Mats Pedersen, en anglais, ça serait bien quand même que tu arrêtes d'allumer notamment le fameux journaliste qui avait posé les questions le matin.
Alors hier, Arnaud s'est quand même risqué à poser son micro sous le nez de Mats Pedersen, qui était ravi. On va voir s'il fait des réponses de plus de 4 mots. Mats Pedersen.
J'ai senti que j'étais dans un bon jour, mais je ne savais pas si lui il l'était. On était tous les deux à la limite. Je suis content qu'il ne m'ait pas lâché dans la montée du Kemmel, car d'habitude c'est comme ça que ça se passe. Je parle de Mathieu Van Der Poel, évidemment. Je suis content de la victoire, pas juste pour moi, mais aussi pour l'équipe. Je ne sais pas si je suis impressionné justement par l'équipe, parce que je savais de quoi on était capable, mais je suis content d'être dans une équipe avec des gars aussi forts. Vendredi sur le 3, Stuyven a montré de quoi il était capable. Aujourd'hui, c'est Jonathan Milan qui a montré de quoi il était capable. Moi aussi, on a vraiment une équipe très très forte et ça me rend vraiment heureux.
Bah alors, il parle bien,
souriant.
Souriant, sympa.
Il est rigoriché, mais souriant.
Il a presque fait trop long.
Ouais. Normalement, c'est 30 secondes, hein, le format. Hein. Là, j'ai dépassé quand même les 30 secondes. Pedersen, qui le disait, et qui rendait grâce à son équipe, la formation Lidl Trek. Formidable équipe pour les courses d'un jour. Il y avait des harlequins un peu partout sur la route hier. Ça avait déjà été le cas sur Milan-San Remo. On rappelle quand même, Johan, les cadors de cette formation Lidl Trek, qui est une équipe bien compacte, bien équilibrée et qui est très à l'aise justement dans ces courses d'un jour.
Bah ouais, c'est ça, et on en a parlé, Arnaud en a parlé avec Jonathan Milan qui est venu, qui avait remporté une étape sur le Giro l'année dernière. Il avait crevé l'écran, Jonathan Milan, il est venu dans cette équipe et on a vu la puissance qu'il a dégagée. C'est lui qui fait mal à Mathieu Van Der Poel en sortant direct, et Mathieu est obligé d'aller le chercher. Puis il y a Jasper Stuyven qui est capable.
Stuyven qui déjà dans Milan-San Remo fait un travail incroyable pour Pedersen.
Voilà, tout à fait. Il fait un travail formidable pour Pedersen. Il termine deuxième au Grand Prix E3, il me semble, devant Wout Van Aert. Voilà, Jasper Stuyven, Jonathan Milan, quand tu les as en équipier comme ça, c'est hyper intéressant. Et puis surtout, Mats Pedersen. Alors d'accord, c'est un petit peu le leader peut-être, mais il se cache pas non plus pour être équipier et justement donner la possibilité à son équipe d'aller gagner plus que pour lui-même, d'aller donner cette possibilité-là. C'est hyper important pour lui et ça brouille les cartes et c'est hyper important ça pour la Lidl Trek, et aller surtout chercher des victoires importantes comme ça a été le cas du coup ce week-end.
Et n'oublions pas Alex Kirsch aussi qui a complètement sapé la poursuite derrière pendant 150 km. Voilà, bon, vraiment équipe super complète, et sur le Tour de France, il y a fort à parier qu'on les retrouvera encore très très forts. Si d'ici là, on va parler des classiques d'abord.
Évidemment, et du Giro. Les classiques. Cyril, tu es convaincu par cette équipe Lidl Trek, bien équilibrée, bien outillée pour les courses d'un jour?
Oui, il leur manquait le petit truc qui fait que ben, on va chercher une belle gagne et ça a été le cas. Ça aurait pu être Milan-San Remo, ça aurait pu être une autre épreuve. C'est venu sur Ganvel-Velghem, mais cette équipe est vraiment, 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 vraiment collectivement très, très forte. Et si Mats Pedersen passe un tout petit cran au-dessus, ce sera quand même l'équipe qu'il faudra absolument regarder, suivre et surtout regarder les stratégies qui seront mises en place parce que cette équipe, elle peut faire bouger toutes les stratégies, que ce soit de la Visma ou de l'équipe de Van Der Poel. C'est vraiment la troisième force.
C'est la troisième force donc pour les classiques et notamment ces Flandriennes dont on va vivre les plus beaux moments la semaine prochaine et le dimanche d'après donc avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Pedersen qui a donc eu la peau de Van Der Poel qui semblait pourtant dans une forme extraordinaire. Vendredi dernier, il a été énorme. Hier, il a attaqué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il a essoré le peloton à son habitude, mais cette fois, ça n'a pas suffi. Il lui a manqué un petit quelque chose et il le concédait volontiers à l'arrivée, toujours au micro d'Arnaud. Mathieu Van Der Poel.
Ouais, j'avais pas les jambes. Je pense que Mats était plus fort aussi. Deux fois Kemin que j'étais vraiment à la limite et je sentais déjà dans le sprint que j'avais plus les jambes et lui il est toujours fort au sprint aussi, donc je savais que ça allait être difficile.
Je savais que ça allait être difficile. Il le reconnaît, hein. J'avais pas les jambes. J'avais pas les mêmes jambes que d'habitude.
On l'a pas entendu là, nous le dire, mais il était déjà très content à la limite de rester dans la route de Van Der Poel.
Même dans le Kemmel, dans le troisième passage.
Exactement. C'est de ça dont
il s'arrache. Il
s'arrache très clairement. Ouais. Et il disait qu'il était déjà content d'avoir pu rester dans les routes Pedersen. C'est dire à quel point Pedersen était fort hier.
On rappelle quand même que Mathieu a entamé sa saison sur route il y a une grosse semaine seulement avec Milan-San Remo, qu'il a livré depuis de furieuses batailles sur les trois courses qu'il a couru, il en a gagné une et ça semble normal finalement, et tu le disais tout à l'heure Cyril, d'avoir un petit coup de moins bien quand on débute, même s'il a effectué beaucoup de cyclocross pendant l'hiver, mais voilà, on peut pas non plus être un mutant sur toutes les courses. Ça t'inquiète pas plus que ça pour dimanche prochain, au contraire, tu le disais, ça lui met un coup de pied aux fesses et ça va le rendre encore plus fort.
Oui, et puis peut-être plus méchant, plus revanchard, et peut-être plus économe de ses efforts, ou plus exactement, il va utiliser de façon plus intelligente le potentiel qu'il a en fonction des circonstances de course.
Tu veux dire qu'il ne court pas toujours intelligemment, c'est ça que tu veux dire ?
Le problème, c'est que quand on est très fort et plus fort que les autres, on arrive à faire un certain nombre d'efforts qu'on ne ferait pas si on avait un tout petit cran en dessous, mais qui ne t'empêcherait pas d'aller quand même à la gagne. Donc on est quelquefois un peu euphorique au travers de ce qu'on va ressentir sur le vélo. Donc de temps en temps, une gifle sur la joue gauche et une autre sur la joue droite, ça te remet au milieu du village et tu vas repenser les choses d'une façon un peu plus... intelligente, rationnelle, et en te disant que chaque coup de pédale que tu vas donner doit être un coup de pédale utile. Si tu donnes des coups de pédale inutiles, eh bien, tu peux effectivement te faire battre. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que ce type de défaite est intéressant pour Mathieu. Sinon, pourquoi douter ? Il nous fait un numéro à l'E3. Milan-San Remo, il nous fait un numéro. S'il va gagner hier, il n'y a plus le doute. Et quand il n'y a pas le doute,
il n'y a toujours pas de doute. Hein. Pardon, hein, mais tu fais deuxième de Ganvel-Velghem après la journée que tu as passé quand même à rouler la truffe au vent. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Et Mathieu Van Der Poel, il va profiter de cette semaine pour bien se reposer.
Alors,
il va aller faire des petits trocos.
Quel programme, justement, quand on a livré trois furieux
Là, en tout cas, il ne fait pas à travers la Flandre.
Il
nous l'a dit, il va se reposer. Et après, il ira faire quelques rocos en fin de semaine.
D'accord. Pas de gros entraînements, pas de grosses sorties dans la semaine, Cyril, quand même. Parce que
les appels, c'est de grosses sorties. C'est l'E3, c'est
il y a quand même 8 jours d'écart entre les...
Non mais oui, bon après oui, il va sans doute faire des sorties, mais ces grosses sorties, ces hautes intensités, il les a faites là sur l'E3 et Ganvel-Velghem.
D'accord, donc là juste de la récup pendant une semaine.
De l'entretien avec des piqûres de rappel sur les intensités.
Attention avec les piqûres de rappel toi.
Oui, bâton, on en a ras-le-bol de ça. On peut utiliser les mots qui veulent dire quelque chose.
Oui,
ce que j'appelle piqûre de rappel, c'est restimuler certaines intensités pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Voilà. Donc, c'est ce que l'on fait en règle générale, en sachant qu'il ne faut pas qu'on tombe en désentraînement par rapport à Paris-Roubaix. Mais maintenant, vous savez, il y a à peu près 15 ordinateurs pour chaque coureur.
Oui,
je pense qu'ils sont capables, d'autant qu'on a aujourd'hui des témoins de fatigue. Et ça, l'ordinateur va vous le donner en fonction de tous les datas qui sont rentrés. Oui, le vélo, c'est pas qu'avec un boyau sur le dos.
Ah, c'est la NASA aujourd'hui, hein. C'est la NASA.
C'est la NASA. Donc logiquement, tu sais le. Déjà, naturellement, on sait le gérer, mais là, en plus, on a des éléments supplémentaires qui nous permettent de. Et puis, comme la vérité n'existe pas. Et qu'on essaye toujours d'aller au plus proche de la vérité. Eh bien, même les ordinateurs, ça se rate.
Ouais.
Eh oui. Parce que les ordinateurs, ils ne peuvent pas régler les neurones, le mental, voilà.
Ok, bon, on verra si tout ça est bien en place pour Mathieu Van Der Poel. On n'en doute pas, il sera évidemment l'un des grandissimes, sinon le grandissime favori du Tour des Flandres dimanche prochain. En tous les cas, sa défaite face à Pedersen rebat un tout petit peu les cartes. On a évoqué Pedersen, on a évoqué Van Der Poel. Il y a d'autres postulants, à commencer évidemment par l'éternel rival de Van Der Poel, Wout Van Aert, dont le but dans la vie est un jour de remporter le Tour des Flandres, Arnaud. Va-t-il y arriver un jour?
Ou Paris-Roubaix.
Surtout
Paris-Roubaix. Voilà, il a dit qu'à choisir entre les deux, il préférait remporter Paris-Roubaix. Mais c'est vrai qu'il a tout misé sur le Tour des Flandres. En bon Flandrien, il sait quand même que pour sa popularité en Belgique, même s'il s'en moque éperdument, je pense, hein, connaissant le personnage un petit peu, pour sa popularité, ça ferait quand même énormément de bien à Wout Van Aert de remporter le Tour des Flandres. En tout cas, il a tout misé cette année pour cela. Il n'a pas couru Milan-San Remo. Bon, malheureusement pour lui, sur le Grand Prix E3, il y a eu une petite erreur de passage, voilà, et une chute qui lui a coûté une sacrée partie de manivelle derrière, parce que justement c'est au moment où Mathieu Van Der Poel avait placé une attaque, donc les deux hommes ont été aux prises pendant de très très nombreux kilomètres, et Wout Van Aert a failli revenir sur Mathieu Van Der Poel, mais finalement a fini par exploser en plein vol. Donc oui, c'est le grand objectif, pour autant il a jamais vraiment été dans une mesure incroyable de remporter le Tour des Flandres, hein, Wout Van Aert, hein,
il a battu par Van Der Poel en 2020 au sprint. C'était ou l'un ou l'autre quand même, ce jour-là.
Oui, hein. Oui.
Il y a quelque
chose
qui fait tâche dans la carrière de Wout Van Aert, c'est qu'il n'a qu'un seul monument. Et ça, quand même, c'est incroyable. Il y a cette course, tu t'en parlais de ce duel avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel en est à 4, c'est ça?
Il en a 4. Bon,
donc
après.
Voilà. Quand même, un seul monument pour Wout Van Aert et le statut qu'il a. Alors évidemment,
j'en reviendrai toujours quand même aux étapes sur le Tour de France, hein,
bien sûr,
où il en a beaucoup plus que Mathieu Van Der Poel.
Il en a 9.
Mais oui, mais si, tu fais la moue, Christophe.
Pas des monuments, je suis désolé.
Mais c'est pas des monuments.
Non.
Ah d'accord.
Bah quand même, un monument.
Non, enfin, il y a certaines étapes que tu peux considérer comme des monuments, mais je suis désolé, pas tout.
D'accord.
Pas
donc
tout.
Gagner les étapes sur le Tour de France, c'est nul.
Mais non, c'est pas ce qu'on dit.
Oh,
Arnaud, enfin, c'est pas ce qu'on dit, mais,
non,
c'est,
mais
vrai,
bon.
C'est vrai qu'un monument, tu resteras plus. Même si, bon, il en a gagné 9, c'est vrai que c'est incroyable, mais voilà, il faut en gagner énormément sur le Tour pour rester comme ça dans une légende des légendes. Mais il faut qu'il gagne des monuments au bout d'un moment.
Bah, il en a déjà gagné forcément. En plus, il a gagné Milan-San Remo.
Est-ce qu'un seul, c'est assez pour Wout Van Aert?
Hein, il est tellement de mauvaise foi quand on
mais
parle
je
de
suis
Van
pas,
Aert.
Je
c'est
suis pas de mauvaise foi, c'est vous
terrible.
En fait. En fait,
que...
vous projetez sur Wout Van Aert le palmarès du cycliste rêvé. En fait, vous voudriez qu'il ait gagné 15 étapes et qu'il ait gagné 8 monuments.
Et oui.
Ça se passe pas comme ça. Il y a d'autres mecs qui gagnent des monuments.
Par contre,
il gagne des étapes. Il a un maillot jaune, il a un maillot vert.
Pour un Plahut, ne jamais remporter un monument.
Ça va, je pense que sa carrière n'est pas trop.
Non, mais je suis désolé parce que je pense qu'il n'est pas du tout d'accord avec toi. J'ai même l'impression que ça tourne à l'obsession, sa volonté de remporter soit le Tour des Flandres, soit Paris-Roubaix. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte pour lui. Cette année, il s'est spécifiquement entraîné pour ces deux courses. Il a tout fait pour et on le voit encore dans le 3 se gameler. Cyril, t'as pas l'impression que ça tourne à obsession et que ça pourrait finalement lui jouer des tours de vraiment tout miser sur ces deux courses? S'il se plante dimanche prochain et celui d'après, dans quel état moral va-t-on le retrouver, Van Aert?
Je pense qu'il est déjà pas très, au niveau du mental, il est déjà pas très bien aujourd'hui, à quelques jours du Tour des Flandres. Oui, pour moi, c'est une obsession. Christophe, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. N'oublions pas que ce soit le roi Merx ou les empereurs Ric I, Ric II, et je ne parle pas de De Vlaminck et de quelques autres, ce sont de grands coureurs belges. Mais dans l'opinion du grand public, Van Aert, il n'est pas à leur niveau. Alors qu'en termes de potentiel, on peut dire qu'il est quand même très proche. Donc effectivement, il est en train de passer à côté d'une grande carrière et surtout en train de passer à côté de pouvoir être au même niveau que ces coureurs-là, alors qu'il a le potentiel. Ceci dit, il n'a pas encore 30 ans, il peut encore boucher des trous. Mais pour l'instant, il est loin des grands coureurs belges.
Et oui, parce que même si Arnaud considère les étapes du Tour de France comme des monuments,
mais non, mais en fait,
pour les Belges, ce ne sont pas des monuments.
Je comprends pas comment, je viens quand même d'entendre là, que Wout van Aert est en train de passer à côté d'une grande carrière. Enfin, j'hallucine en fait. J'hallucine.
Par rapport à Van Looy, à Van Stimbergen, par rapport à Merckx,
De Vlaminck. Par rapport à ces gars-là, si tu veux. Mais enfin, bon, on sait très bien que Wout van Aert ne gagnera pas 5 Tours de France. Il faut quand même arrêter. Enfin,
Si tu gagnes pas le Tour de France quand t'es belge, au moins gagne les monuments des Flandres.
J'ai oublié Freddy Martens aussi. Hein.
Mais voilà, pour l'instant, c'est un immense champion. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme Pedersen. Moi, je le mets dans le groupe.
Carrément. Ah oui, bon là, je te lâche. Non, mais à un moment, vous voulez me faire fuir de ce studio, c'est pas possible. Non, mais.
Très bien. Alors,
au pied et au mi, là, il raconte n'importe quoi.
Nous avons parlé de Wout van Aert, qui d'ailleurs a déclaré, en plus, il va se fâcher avec toute la Belgique et avec toutes les Flandres, en disant que sa course préférée, c'était Paris-Roubaix. C'est ma course numéro 1, celle qui m'excite le plus. Je n'ai pas le droit de le dire parce qu'un Flamand, un Belge, doit toujours préférer le Tour des Flandres, mais c'est la vérité. Paris-Roubaix a quelque chose de plus, c'est une course unique. Il risque le bannissement, je pense, pour de tels propos. Et moi, j'espère qu'il va gagner Paris-Roubaix. Ah. Voilà, j'espère. Parce que l'année dernière.
Jetterai un petit regard là.
Non, mais en plus, j'adore ce mec. J'adore sa mentalité. J'adore ce coureur. Et en plus, il a le mauvais. Enfin, tu vois, il y a la sorcière aux dents vertes qui traîne autour de lui. Cette espèce de malchance qui le.
Malchance,
qui
et le puis suit. Toujours. Lui, quand même, tous les copains. Et parfois, il n'est pas aidé. Hein. Moi, je me souviens sur la deuxième étape du Tour de France l'an passé, quand Victor Laffey gagnait à Saint-Sébastien, Vingegaard, il a quand même pas été formidable avec Wout van Aert pour mener la poursuite derrière Victor Laffey. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres.
Van Der Poel aussi se transformer de temps en temps en équipier.
Absolument. Hein. Mais ce jour-là, c'était à Vingegaard de se transformer en équipier.
Là où Wout van Aert est cette Vingegaard aujourd'hui.
Ah non, on va pas parler de lui. Il sait même pas ce que c'est qu'un pavé.
Il l'a su sur le Tour 2022 et il l'a pris à ses dépens d'ailleurs.
Alors,
et là aussi, heureusement que Van Aert était là d'ailleurs.
Est-ce que finalement, le plus grand coureur belge, celui qui va mettre tout le monde d'accord et qui va remporter les monuments, se nomme pas Jasper Philipsen? Est-ce que c'est pas lui finalement qui va...
M'a semblé un peu court quand même hier hein, sur Gambevelgem, hein, sur les monts. Bah, je trouve. Il était court déjà sur Milan-San Remo.
Il a gagné Milan-San Remo. Et pareil, c'était des circonstances un petit peu particulières. Une course facile, en citant Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel et tout le reste. Donc là, il en a profité. Est-ce qu'il gagnera un autre monument? J'ai l'impression. Paris-Roubaix peut-être, mais pareil, il faudrait des circonstances.
Paris-Roubaix, il peut, hein, il a terminé deuxième l'an passé.
Voilà, il est dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel.
Mais pas le Tour des Flandres. Pour vous, c'est impossible.
En tout cas, je trouve que s'il est aussi court qu'il l'a été hier et qu'il ne l'a été sur Milan-San Remo, ça me paraît. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais ça me paraît quand même pas forcément évident.
Rien n'est évident, mais à ce niveau-là, on a des coureurs qui sont tellement proches les uns des autres, même si on se retrouve avec quelques coureurs qui quelquefois nous font des numéros où on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. Mais l'an dernier, si Van Der Poel ne fait pas la différence, n'oublions pas qu'elle est partie sur une chute de Gelkob au pied de la montée de l'arbre, c'est Philipsen qui gagne l'an dernier.
On verra si Jasper Philipsen est capable de passer les Monts des Flandres ou s'il se réserve pour Paris-Roubaix la semaine d'après.
On n'a pas le droit à un petit débat sur laquelle est la plus belle entre le Ronde 2 et l'Enfer du Nord.
Bah, vous allez tous dire Paris-Roubaix, évidemment, on est tous français. Non ?
Ah mais moi oui, moi c'est Paris-Roubaix. Mais c'est pas, mais non, mais c'est pas par, c'est pas par
chauvinisme.
C'est pas cocardier du tout, voilà, c'est non, pas par chauvinisme. Non, c'est pas par chauvinisme du tout. C'est juste que je considère.
Et qui est le plus beau, Van der Poel ou Van Aert?
Les deux sont beaux gosses quand même.
Avec qui passerais-tu le week-end en pote?
Bah parce que Van der Poel il parle français, donc c'est quand même plus sympa de le passer avec Van der Poel.
Tu abandonnes.
Oui, puis attendez, Van der Poel il est 50% français. Hein.
Exactement.
Non, et puis Van Aert parle très bien français aussi.
Alors que
Van der Poel a l'air plus sympathique.
Van Aert est néerlandais. Hein.
Non, il est belge.
Non, ses parents, son père et sa mère sont néerlandais.
Ouais, ça y est, non, on est parti dans les gènes.
Eh ben oui.
Ouais, dans la génétique, on est mal barré.
Il a toujours habité en Belgique.
Parfait.
Et il a pris la nationalité belge.
Eh ben oui.
Mais comment l'histoire est faite, hein?
Et Van der Poel est néerlandais, mais enfin, toujours habité en Belgique depuis voilà. Qu'il est tout petit et de temps en temps en France pendant les vacances. Très bien, il n'y aura pas de Français vainqueur, il y aura Julien Alaphilippe quand même qui va essayer de tirer son épingle du jeu, mais là, Soudal, Quickstep est vraiment à la rue ces derniers temps. Pas de Christophe Laporte, tu l'as dit tout à l'heure, il est forfait pour le Tour des Flandres, il ne se remet toujours pas, on ne sait pas exactement ce qu'il a, des problèmes.
Une grippe intestinale, selon un communiqué de la Visma Lisa Bike.
Tout vouloir dire et son contraire. En tout cas, c'est bien décevant. Et puis, pour Van Aert, c'est un appui en moins. Et puis, les autres Français, on espère les voir briller. En tout cas, on se régalera. C'est dimanche. Départ à 10h de Anvers. Arrivé 7h plus tard, à peu près. C'est
dans
ça
ces eaux-là, oui. Un petit peu moins de 7h plus tard.
270
km cette année. 16 monts. 3 fois le Courmont. 2 fois le Paterberg.
Tu me disais ?
La météo de mon téléphone très moderne me dit qu'il ne pleuvra pas dimanche. Je garantis rien pour samedi.
Eh ben, nous verrons ça. Merci. Arnaud, merci Johan et Cyril. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le Tour des Flandres et pour évoquer Paris-Roubaix qui arrivera dans la foulée. Bonne semaine, à lundi prochain.